je crois que chaque chrétien a vécu des combats. En tout cas, je ne sais pas si vous en vivez ou vous ne vivez pas. Moi, j'en vis. Je ne sais pas si vous êtes si vous êtes charnel, comme moi, cher. Je vis des combats. Combien vivent des combats? Alléluia. Je suis bon dans la bonne place. Alléluia. Donc, à partir de ce moment-là, il faut apprendre à combattre. Donc, on n'a pas le choix que l'Église, le chrétien, doit vivre une foi en Jésus-Christ. Une foi solide, enracinée en Jésus-Christ. Et ce matin, je vais parler de la foi, l'arme de la victoire. Donc, c'est important parce que je crois que c'est beau dire que Dieu m'aime. Oui, Dieu m'aime, mais Dieu m'apprend d'être un guerrier aussi. Allô? L'amour, c'est parfait. Moi, je n'ai rien contre l'amour. Mais l'amour aussi, il y a de la bataille. Il y a des victoires à aller chercher. Je pense que chaque chrétien a des victoires à aller chercher. En tout cas, moi, j'en ai. J'en ai besoin. Et on bataille, on y va. Mais il faut apprendre à batailler. Donc, il faut apprendre à faire confiance en celui qui vit en nous. Amen. Donc, on va regarder ça ce matin. Si vous avez vos Bibles, on va aller sur le PowerPoint. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 au verset 5, qui nous dit « C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Seigneur, je te prie de m'aider. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Et Père, que ta parole soit agissante, transformatrice et qu'on soit également glorieux en travers la parole. Père, envoie, Seigneur, cette onction qu'on a tellement besoin de toi, Seigneur, pour avancer. Père, fais-nous du bien, encourage-nous et viens donner les victoires pour ceux qui ont besoin de victoire ce matin. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen et amen. Donc, vous savez, pour saisir la pensée de l'apôtre Paul, Paul se trouve à Athènes, si vous connaissez l'histoire, et Paul il est séparé de l'église de Thessaloniciens. C'est une jeune église qu'il a bâtie. Paul a été persécuté, donc Paul s'est sauvé, mais l'église qui est en place, donc elle va continuer à vivre la persécution à cause de leur foi en Jésus-Christ. Cette jeune église est persécutée à cause de Christ, donc les gens rejettent Jésus-Christ, la bonne parole de Jésus. Mais Paul va avoir des nouvelles de ces convertis, de ces jeunes églises converties. Et Paul va envoyer le jeune Timothée pour prendre des nouvelles de cette église. Paul va avoir des nouvelles, pas des nouvelles comme comment on grandit en nombre, pas des nouvelles de leurs finances, pas des nouvelles de leur confort matériel, pas des nouvelles de leur don spirituel, de leur succès de l'évangélisation. Non, Paul voulait savoir comment allait leur foi. Le plus important pour Paul, c'était leur vie à eux, leur vie spirituelle. C'était l'important, c'était pas les finances, c'est pas comment l'Église grandit, c'est comment que Dieu, comment que eux allaient avec le Seigneur. Et nous avons besoin de savoir comment va notre vie avec Dieu. C'est la plus grande chose que nous devrons avoir. Le but de Paul, c'est de voir comment va leur foi. Paul est préoccupé par cette jeune Église et l'Église doit grandir malgré qu'il y a des persécutions, malgré qu'il y a des défis, malgré que ça ne va pas bien. L'Église doit continuer à grandir. Dites-moi un gros amen. L'Église, malgré ses chutes, ses tribus, ses difficultés, elle doit continuer à prospérer à tout égard. Et nous savons que nous avons également un ennemi qui veut voler la semence dans nos vies. J'aimerais mettre une parenthèse avant d'aller plus loin. Vous savez, l'ennemi sait que le meilleur moyen pour causer une brèche dans notre humanité, dans notre système humanitaire, je pourrais dire spirituel, est de prendre et de s'en prendre à notre foi, à votre confiance que vous avez avec Dieu. C'est la place où qui va fesser le plus fort dans votre vie, c'est de mettre Dieu en doute dans ta vie. Et une fois qu'il réussit à mettre du doute, ça va affaiblir votre foi. Vous devenez une cible facile pour l'ennemi face à cela. Parce que le rôle de l'enfer, c'est de vous déstabiliser dans votre foi. Il le fait par le doute, il vient pour briser la confiance dans la vie, il va vous éloigner réellement de la véritable foi qui peut déplacer la montagne. Parce que s'il y a le doute, la montagne ne se déplace pas. La foi et le doute, ça ne va pas ensemble. Et c'est ça que je veux développer ce matin. Nous sommes vraiment dans une guerre spirituelle. J'espère que vous le croyez, que vous êtes dans un combat spirituel. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes entré dans une guerre spirituelle. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es rentré dedans. Parce que tu es déjà à l'inverse de l'ennemi. L'ennemi n'aime pas le chrétien. Donc, tu es dans une guerre. Et nous savons dans Daniel, chapitre 9, verset 13, que Daniel a attendu une réponse du Seigneur 21 jours. Vous connaissez le récit. Et qu'il y a un ange territorial que j'appelle un ange de Perse, un démon, qui a empêché Daniel d'avoir la réponse. Et l'ange Gabriel a eu besoin d'un autre ange, Michaël, qui est venu aider Gabriel, parce que Gabriel n'est pas capable de donner réponse. Donc, il y a un combat spirituel dans les lieux célestes. Et Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits de ce monde-là, le monde des ténèbres. Et Paul nous enseigne qu'il faut lutter. Il faut s'armer. Il faut aller à la guerre. Si vous voulez gagner des victoires, donc il faut apprendre à combattre le bon combat de la foi. Et il ne faut pas être nonchalant. Notre combat est réel. Et c'est à nous d'être éveillés sur ce côté-là. Vous savez, les démons existent. L'enfer existe. L'oppression satanique existe. Les possessions diaboliques existent. Le monde de l'enfer, il est présent. Combien de fois, à travers les années, que j'ai eu des surprises, les gens avançaient en avant, j'ai eu des surprises, là. Du mouvement en avant, des voix sorties, j'en ai rencontré en cours de route. L'enfer est réel. Les gens sont possédés de démons. C'est des choses réelles. Ne doutez pas de votre ennemi. Ne sous-estimez pas votre ennemi. La prière, c'est une arme redoutable qui vient pour briser le joug du diable. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. Et donc, Dieu est notre rocher et notre salut. Tu ne vis pas juste par les émotions. Puis je le dis souvent, puis je le répète souvent, trop souvent en tant que chrétien, nous vivons sur nos émotions. Et non pas axés sur qu'est-ce que la parole nous enseigne. Nous pensons beaucoup de choses, mais qu'est-ce que la Bible m'enseigne face à ces choses-là? Comment je dois agir à travers les combats spirituels? Ce n'est pas mes émotions qui doivent contrôler ma vie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui met la foi en moi pour combattre le bon combat de la foi, pour renverser les pensées négatives par la confession de la parole de Dieu qui est esprit, qui est fort, puissant, qui vit en vous. Elle renverse les forteresses de l'ennemi. Dis avec moi, elle renverse les forteresses de l'ennemi. Tu n'as pas reçu un esprit d'intimidation pour vivre dans la défaite, mais tu as reçu la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie victorieuse dans l'adversité. La foi de la parole de Dieu, elle nous encourage, elle nous fortifie, elle nous relève et elle nous restaure. Elle met en toi une assurance que personne d'autre peut faire. Psaume 112, verset 7 et verset 8. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'y a point de crainte jusqu'à mettre son plaisir à regarder ses adversaires. Wow! J'aime dire que celui qui aime Dieu, qui est attaché à Dieu, malgré les difficultés, malgré les combats de la foi, Il ne craint point les mauvaises nouvelles. C'est fort. C'est très, très fort. Arrêtez-vous, là. Moi, quand on me dit, là, que j'avais le cancer, là, qu'on me dit, là, on ne sait pas ce qui va arriver avec toi. J'ai tout un choc. Honnêtement, là, j'ai dit, pouf, toute une nouvelle, ça. Donc, j'ai voulu que je prenne sur le moment. J'ai dit, wow, je ne me laisserai pas abattre. Je ne me laisserai pas abattre. Puis je voulais compter souvent qu'est-ce que j'ai dit à maintenant en sortant du bureau. L'homme dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? Et j'ai dit, non, je ne me laisserai pas anéantir avec une mauvaise nouvelle. Mon cœur doit être ferme dans les mauvaises nouvelles. Donc, je ne dois pas tomber dans la peur, dans l'anxiété, lorsque je me trouve dans la détresse. Allô? Donc, ma foi doit rentrer en activation. Donc, je dois aller à contre-courant de mes pensées négatives. Allô? Donc, je dois ramer sur la foi de dire, ça va bien aller malgré que ça ne va pas. Je dois dire, Dieu est avec moi, le Seigneur m'accompagne. C'est pas facile, mais je sais que je vais y arriver. La foi confesse le côté négative de l'autre bord de la rive, je pourrais dire. Souvenez-vous de David, c'est quand ils sont revenus dans leur village de Tislag. Et quand ils sont revenus de leur village, le village était brûlé, il y avait de la fumée, les enfants ont été enlevés. David a perdu ses deux femmes aussi, il est enlevé. Puis les hommes de David ont voulu même le lapider. Laissez-moi vous dire que pour David, ça n'a pas été très facile. Mais David était un homme de guerre. David était un homme de terrain. Au lieu de se laisser abattre, lisons 1 Samuel 30 et verset 6. David, qu'est-ce qui est écrit? Fut, lisez avec moi, fut quoi? Il y a de quoi? On veut le lapider, on veut le tuer. Il y a de quoi dans l'angoisse, hein? Laissez-moi vous dire. Le peuple parlait de le lapider. Tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Qu'est-ce qui est écrit par après? David reprit courage. Dans ses émotions les plus extrêmes, dans sa faiblesse la plus extrême, David place sa foi dans l'Éternel et non sur lui-même ou dans les circonstances extérieures. Il reprend courage, entend dire, il se reprend en main. Si vous voulez vous sortir de vos problèmes, mais prenez-vous en main. Allô? Fais confiance à celui qui t'a sauvé. Ne te laisse pas battre à travers la lutte. Relève la tête. Sois cet homme de caractère, un homme de conviction. Il sait que les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Et que les promesses de l'Éternel sont pour nous, que jamais qu'il nous abandonnera et jamais qu'il nous délaissera. Le psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon », on l'a chanté ce matin, « Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Donc, l'homme de Dieu qui vit la difficulté, ou qui vit les problèmes, ou qui vit l'angoisse, ou qui vit la tribulation, il apprend à lâcher prise et à rentrer dans le repos de Dieu, dans la confiance et dans l'assurance que son Dieu l'accompagne. Allô? Moi, c'est comme ça que je vis ma foi. C'est pas facile, mais je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, je m'appuie comme vous devez vous appuyer. Jésus-Christ est la promesse pour ma vie, comme un père qui ne va pas abandonner sa famille. Quand un malheureux crie, entend, il me délivre de toutes mes détresses. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde la donne, mais comme moi je vous la donne. La paix de Dieu, quand elle vient dans nos vies, je dis souvent aux gens, que le ciel tombe sur ma tête, je vais rester en paix. En sécurité, je me sens bien, peu importe ce qui arrive, j'ai une paix intérieure et personne ne peut me voler ma paix. Alléluia, la paix de Dieu. Vous savez, on se sent en sécurité, on se sent bien avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est vraiment notre force intérieure pour que je reste ferme dans l'assurance de ses promesses. La véritable foi, elle bannit le doute de votre cœur. La véritable foi s'appuie sur la parole de Dieu. Elle confesse la parole de Dieu. Elle s'empare des promesses de Dieu. L'amour de Dieu est là pour ta vie. Elle te soutient pour te donner la victoire sur ton ennemi. Plus grand celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Alléluia. La victoire de la croix par le sang de Jésus devient ma victoire sur le monde des ténèbres parce que je vis dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La foi, elle déplace la montagne. Alléluia! C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia! J'aimerais dire, c'est comme dire, Serge, Robert, Manon, mettez les noms que vous voulez, c'est toi qui as l'autorité sur ton ennemi. C'est pas l'ennemi qui a l'autorité sur moi, mais c'est moi qui ai l'autorité sur mon ennemi. Ma foi doit confesser que je suis plus fort que mon ennemi. Alléluia! C'est toi qui as l'autorité pour mettre tes problèmes sur le pied. Vous savez, la puissance du nom de Jésus, c'est puissant. Les démons tremblent au nom de Jésus. Les démons s'en vont au nom de Jésus. Les démons n'ont pas l'autorité du nom de Jésus. Le sang de Jésus plaide. Alléluia, la puissance pour la délivrance et la guérison. Et c'est le temps de l'Église à rentrer dans l'esprit du réveil, de dire « Celui que je sers est plus grand que celui que le monde, et mon Dieu va pourvoir à tout besoin pour m'emmener encore plus loin. Il va pourvoir à mes besoins. » L'apôtre Paul se préoccupait, vous savez, de la vie spirituelle des jeunes Thessaloniciens. Il s'informa de la santé spirituelle de cette Église qui vit la persécution, qui vit la tribulation. Paul, c'est un père spirituel. Il savait que la foi, c'est une importance capitale dans la vie du chrétien. On peut vivre la foi. Mais si la parole ne nous accompagne pas, ça ne marche pas. Puis si tu as juste la parole, bien, ça ne marche pas non plus. Un ne va pas sans l'autre. Tu as besoin de la parole, puis tu as besoin de la foi. Allô? Des fois, on est tout mêlé dans la foi. C'est simple. La parole suit la foi. La foi, on grandit à travers la parole. Matthieu 7, 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Paul désire mettre cette fondation, une fondation solide, dans le cœur des gens par la parole de Dieu. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et encore, Isaïe nous cite, Isaïe 43, versets 1 à 3, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point, et les flammes ne t'embraseront pas. » Écoutez bien, même si ça souffre, je dirais même que ça peut décoiffer, à force que ça peut souffler fort. Même si l'épreuve, elle est réelle, elle est forte, puissante, Dieu te dit qu'il est avec toi. C'est ton esprit, c'est son esprit qui t'a créé. Tu lui appartiens, tu as fait une alliance de sang. Tu es enfant de Dieu par adoption. Donc, ton Père te connaît. Alléluia! Et c'est moi qui t'ai créé. Il dit, ne crains point l'adversité. Il dit, je t'ai racheté par mon précieux sang. Alléluia! Laisse-moi te dire, et en plus, tu dis, tu m'appelles par mon nom. Tu peux-tu avoir plus intime que ça? Tu sais, papa, là, quand on parle du Père, là, c'est grand. Quand on s'arrête à l'amour de Dieu, au Père, à la compassion de Dieu, à la compassion, à la bonté de Dieu, c'est grand. On ne peut pas tout saisir, ces choses-là. Mais je sais qu'il est là. Je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout, mais je marche pareil. À fur et à mesure, les révélations, Dieu nous les apporte. Alléluia! Essaye pas de tout comprendre d'une chose, c'est impossible. Une bouchée à la fois. Même si tu travailles les eaux agitées, même si tu penses que ça sauve beaucoup, comme Shadrach, Meshach, Abednego, hein, qui ont dit non, on ne se mettra pas dans l'idolâtrie, mais il y a une quatrième personne qui était dans le feu. Alléluia! Et nous l'avons avec nous. Alléluia! Jésus vit avec moi. Ne vis pas ce matin dans un esprit de crainte, de peur, d'intimidation, de compromis, mais dans un esprit de foi et vis dans l'esprit du miracle que Dieu peut exercer pour ta vie. Combien ont besoin de miracles ce matin? Soyez honnêtes. Combien ont besoin d'un miracle dans leur vie? Moi, en tout cas, je lève les deux mains, là. Je serais capable de lever mes pieds, je les lèverais, là. On a tous besoin, quelque part, de quelque chose. La Bible nous dit, « Quand je suis faible, je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand je suis faible, c'est là que je suis fort. » Donc, le Saint-Esprit, il est là pour me relever. Il te dit, « Fais-moi confiance. » La Bible a cité le psaume 18, versets 2 et 3, tous les psaumes d'encouragement. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force me sauve, ma haute retraite. » Dans les périodes de tempête, dans les périodes plus délicates de la vie, David dit, « Ô Seigneur, je t'aime, ô Éternel. Tu es ma force, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, tu es mon Dieu, tu es mon rocher, je trouve un appui. Alléluia, tu es mon bouclier, tu me sauves, tu es ma haute retraite. » Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui a pleinement confiance en Dieu. Allô? Qui ne doute pas de l'adversité, il y a l'assurance que le Seigneur l'accompagne. La victoire de Jésus-Christ, par le sang versé à la croix, nous donne la victoire sur les tempêtes, je le répète. Notre langage, la petite langue, elle fait bien des dégâts, on le sait. Hein? Notre petite langue, là, elle doit donner l'assurance. Quand que je parle, que je suis dans des temps plus difficiles, je dois prononcer des paroles de vie et non des paroles de mort. Changez le langage. Prenez des langages, la parole de Dieu. Alléluia! Commencez à renverser les positions de l'ennemi qui te fait croire que tu n'es pas capable d'y arriver. Mais prends la parole. Dans mon bureau à maison, régulièrement, je mets une Bible dans les mains, puis je marche, puis je confesse mes paroles. Je confesse la parole. Merci Seigneur pour la victoire. Tu as écrit, c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Tu vas me le donner à moi aussi. C'est comme ça que je me... Ma foi... Seigneur, tu as donné la victoire à David, tu vas me donner ma victoire à moi aussi. Si tu as donné la victoire à Moïse, tu vas me donner ma victoire aussi. Commence à confesser sur l'argument de la parole de Dieu. Ma bouche confesse la source de la victoire. Comme David qui a pris position avec Goliath. Goliath était gros, il était imposant, puis il fait peur. Mais David, c'est un homme qui a confiance en Dieu. Laissez-moi vous dire que même s'il est gros, même s'il est imposant, David, vous savez, avant d'aller dans le combat, David va faire quelque chose d'extraordinaire. Avant de confronter David, il va aller dans un torrent. Il va sortir 5 pierres polies. Et peut-être ce matin, si vous êtes dans un combat, peut-être pour vous ce matin, allez à la source. Peut-être que vous allez sortir, si vous êtes dans une guerre spirituelle, peut-être que vous allez sortir de votre source avec une pierre. Peut-être que tu dis, moi, le matin, j'ai une pierre de foi. Oh, je sors de là, de la prière. Peut-être que l'autre va dire, moi, j'ai une pierre. Moi, je suis jeune. Donc, peut-être que tu vas avoir une pierre. Peut-être, moi, le matin, j'ai de l'audace. Mais sors avec une pierre qui a été polie. Allô? Puis va à la guerre avec ces choses-là. Peut-être que tu as besoin de cela. Mettez les noms que vous voulez aux pierres. Ces pierres et aller sur le terrain de l'ennemi. Alléluia! On oublie de dire que j'ai un adversaire, mais il est vaincu. Va sur le territoire de l'ennemi et reprends ce que l'ennemi veut te voler. Et comment tu fais ces choses-là? J'aime le psaume 18, c'est un de mes versets préférés. Psaume 18, 38, 40, je poursuis. Qu'est-ce qui est écrit? Je poursuis qui? Mes ennemis! Je les quoi? Je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise. Hey, il faut juste dire les dents. Je les brise. Ils ne peuvent me relever s'ils tombent sous mes pieds. Donc, ça nous parle d'un combat spirituel. Tu me sens de force pour le combat. Hein? Tu me sens de force pour le combat et tu fais plier sous moi mes adversaires. David a une foi victorieuse. Avez-vous cette foi? Avez-vous cette foi? Je pose la question, mais avez-vous cette foi victorieuse un matin? Ou on laisse aller, puis oh, pff, pas grave, ça va se replacer. Oh, tu sais, c'est une autre tempête, tu sais. Ou on est plutôt des combattants, bon, on dit non, 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 fini ce temps-là. Comment on va réagir à ces choses-là? David, c'est un homme que ses mains étaient exercées au combat. Sa foi est basée sur son salut en Christ. La confiance de Dieu doit être notre force, je le répète. Vous savez, reste dans la parole. Ne soyons pas, selon Matthieu 7, 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison, elle est tombée, la ruine a été grande. Si la fondation de notre vie chrétienne, ce n'est pas bâti sur le rocher, alors ça va s'écrouler. C'est ça que ça nous enseigne ici. Et les promesses sont pour toi, ça ne se réalisera pas. L'ennemi ne vient que pour voler la semence dans ta vie. Il le fait par les inquiétudes, par les soucis de la vie. C'est la porte d'entrée du monde satanique dans nos vies. Ça ne veut pas dire que tu es possédé, c'est pas ça que je dis, mais tu es tout pressé par le mensonge qui te fait à croire que tu ne peux pas avoir la victoire. Croyez-vous à ça? C'est une game, ça. C'est un combat qu'on parle. Les inquiétudes de la vie emportent l'anxiété et les soucis et nous perdons souvent de vue la fidélité de Dieu qui se renouvelle à tous les jours. Et trop souvent, et puis je vous parle par expérience ici, nous marchons beaucoup par nos propres forces parce que nous ne savons pas attendre la réponse de l'Éternel. Et trop souvent, nous faisons des pas et nous faisons des erreurs dans ces moments-là parce qu'on ne sait pas comment vraiment s'en aller et on veut régler ça à notre façon. Allô? Et on s'épuise dans le combat. On est fatigué, les chrétiens sont sur le burn-out, les gens sont fatigués, ça délaisse l'Église, ça délaisse un, ça délaisse l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à rentrer dans le bon combat. Jésus a dit dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, qu'est-ce qu'il écrit? Car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » La Bible nous dit que le juste vivra par la foi, dans la confiance de Dieu, il nous est recommandé de vivre par la foi et non par la vue. Nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. Il nous dit que sans la foi, qu'il est impossible de plaire à Dieu. Que le juste vivra par la foi et la foi doit être notre assurance et notre confiance, notre sécurité, notre stabilité dans sa fidélité, même si je ne vois rien. Hébreux 11, 1. La foi, bien ce qu'on entend. Non, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans tout moment de notre vie, je dois rester ferme, même si je ne vois rien. Même si tu penses qu'il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Tu ne le vois pas dans ton monde. Souvenez-vous avec Élisée, hein, dans les combats, puis son jeune serviteur, il dit, « Hey, on va la perdre la guerre, Élisée. » Il dit, « N'enflue pas, regarde dans le ciel. » Qu'est-ce qu'il a vu dans le ciel? Il a vu une armée d'anges. On est ignorant sur le côté spirituel de ce côté-là. On va être honnête, là. On a peu d'expérience avec ces choses-là. Mais il y a un monde spirituel qui existe. Être ferme également dans la foi, c'est une attitude ou une décision qui signifie être déterminé, intransigeant ou ne pas céder facilement. Souvenez-vous de l'Église de Pierre. Je vais remarquer dans un deuxième point quand Pierre est en prison. Dans Actes 12, verset 1 et 3, disons, on va rentrer juste dans le contexte. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Donc, les apôtres vivent la persécution. Et comme on a toujours dit, le livre des Actes, Apocalypse, c'est des temps de persécution. Et ici, ils vivent la persécution en cause du nom de Jésus. Et ils sont détestés pour le nom de Jésus. Donc, la société n'aime pas voir les miraculeux de Dieu, des gens se convertir, les signes et miracles qu'ils produisent. Et le monde de l'enfer n'est pas tellement heureux de cela. Au point que Hérode va maltraiter quelques membres de l'Église, il va faire périr Jacques par l'épée, le frère de Jean, et Hérode est diabolique contre le corps de Christ et va ordonner la mort de Jacques, et Jacques va mourir. Il va faire aussi arrêter Pierre, et Pierre aussi va être mis en prison. Et ça se passe pendant les jours des pains sans levain, c'est-à-dire les jours des pains sans levain, si vous faites l'étude, c'est que les Juifs, après la Pâque, pendant les Pâques, ils n'avaient pas le droit de manger du pain avec du levain. On appelle la Pâque sans levain. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'était pas un bon temps pour faire passer Pierre en cour. Pour pas que Pierre s'évade, ils le mettent en prison, ils mettent 16 gardes, 4 chiffres, 4 quarts de chiffres, 4 gardes par quart de chiffre pour garder Pierre pour pas qu'il se sauve de la prison. Il faut être bien certain qu'il va être jugé et ça va être fini. Donc, il attend. Mais entre-temps, hallelujah, la bonne nouvelle, acte 12, verset 5, l'Église, qu'est-ce qui est marqué ici? L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Si nous prions, c'est parce que nous croyons que Dieu va exaucer. Sinon, on ne prie pas. On est d'accord avec ça. Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Donc, l'Église a la foi, a la confiance et l'assurance absolue que Dieu peut délivrer Pierre et de le faire sortir de prison. Et la puissance de la prière a fait bouger le bras de Dieu. Et si vous connaissez le récit, Dieu va envoyer un ange en prison. Encore, Dieu a toujours marché avec les anges. C'est des sujets qu'on ne prêche pas, les anges. Ils sont là. Ils sont là, croyez-moi, ils sont là. Et à partir de ce moment-là, Dieu envoie un ange, délivre Pierre de la prison. Pierre, il pense qu'il est dans un rêve. Il sort de la prison miraculeusement, même s'il y a des gardes. Tout le monde t'avait de l'air. Lui, il sort de la prison. Puis il dit, hey, ça se peut pas, je suis sorti de prison. Il était vers Marie, la maison de Marie. Puis Marthe était à la porte, puis il rouvre la porte. Puis elle dit, non, ça se peut pas, ça soit Pierre. Dieu répond aux besoins de la prière. Laissez-moi vous dire également, Exode, quand il y a eu un combat avec les Amalécites également, ou comme Moïse a levé les mains dans les airs. Exode 17, verset 9 à 11. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qu'il avait dit, Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Écoutez bien, il y a des contextes d'église ou des contextes de combat qui ont des stratégies spirituelles. Et l'église a besoin de ses intercesseurs. Dites-moi un gros amen, là. J'ai besoin des intercesseurs. C'est un ministère le plus important avant que je sois ici. C'est le ministère le plus important dans une église, c'est l'intercession. Nous avons besoin de gens qui nous tiennent les mains. Allô? J'ai besoin. Vous avez besoin, peu importe le pasteur qui vient. Pour Moïse, dans sa tête à lui, et c'est pas vrai que l'ennemi va nous arrêter de rentrer dans nos promesses. Dieu a promis un pays coule le lait et le miel, et on va se battre pour faire avancer nos promesses. Si vous voulez avancer et gagner vos victoires, donc tu dois commencer à y penser. Tu n'as pas à te soumettre à l'ennemi. L'Église, elle est appelée dans la victoire. Ma foi doit se lever pour la victoire. C'est à nous de monter à la montagne, avoir des gens avec nous qui vont nous aider dans le combat spirituel. L'Église a besoin de gens engagés et qui croient à la victoire spirituelle. Allô? Pour ma vie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas facile. Ça demande de l'effort, ça demande de l'engagement, ça demande de la persévérance, mais pendant que Moïse a les mains dans les airs, c'est la victoire. Et quand Moïse a les mains en bas, c'est Moïse qui est dans les fêtes. Qu'est-ce qu'on veut, Église? Les mains dans les airs ou l'esprit de victoire ou l'esprit de défaite? Ou tomber dans la religiosité, puis tout est beau. Non, ça ne marche pas. On a besoin de guerriers qui lèvent les mains dans les airs. L'Église avance de cette façon-là. Vous savez, là que nous sommes dans des temps stratégiques dans notre époque. Nous sommes dans des temps où rien ne va bien. J'ai jamais vu, écoutez, je ne dirai pas mon âge, vous le savez à peu près, là. J'ai jamais vu dans le temps que je vis de la politique aussi malsaine qu'on vit présentement. Il n'y a rien qui va. Au Canada, aux États, partout, il n'y a rien qui va. L'atmosphère, elle est... Il faut s'arrêter, frères et sœurs, et de comprendre les saisons où nous sommes. Nous sommes dans des saisons qui ne vont pas bien. Arrêtons de dire que ça va bien. Ça ne va pas bien. Tout est fragile présentement. Je crois que ce n'est pas un jeu, mais c'est une guerre que nous vivons. Nous avons besoin d'engagement, des gens de prière, de jeûne, qui investissent, qui vont apprendre à manier les armes spirituelles, à animer les dons spirituels. Vous savez, nous sommes dans un temps où, pour ma propre part, je suis de plus en plus en recherche de quelque chose pour ma vie présentement. Puis je dis, Seigneur, je ne veux pas travailler les mains vides. Je ne veux pas être vide. J'ai besoin d'être rempli à quelque part. Donne-moi des outils. Premier outil, c'est la parole de Dieu. Ou je dirais ma consécration à Dieu. Parole de Dieu. J'ai besoin des dons spirituels. J'ai besoin de force, j'ai besoin de courage, j'ai besoin d'audace. J'ai besoin d'être un combattant. Et l'Église a besoin de ses combattants. On ne vient pas juste le dimanche parce que c'est dimanche à l'Église. La vie chrétienne, c'est 7 sur 7. Allô? C'est pas juste, oh, il fait beau un matin, il va, il fait pas beau un matin. Non, l'Église, c'est un engagement, c'est un combat spirituel. Et vous savez, Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, il nous donne un autre moyen également d'édifier notre foi. Éphésiens 3, versets 14, 16 et 17, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, il n'a pas dit là, peut-être un petit peu, là, mais puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Paul priait, Paul n'est pas avec eux, Paul écrit à Éphèse, il veut encourager l'Église à Éphèse, il priait que le Saint-Esprit puisse faire le même travail quand Paul était avec eux. Sûrement que Paul, quand il écrit, il était inspiré par le Saint-Esprit. Donc, il a sûrement laissé monter, alléluia, l'Esprit de Dieu dans son cœur pour parler. Et le désir de l'apôtre Paul, c'est que les Éphésiens avaient besoin d'être fortifiés. Et l'Église, elle a besoin d'être fortifiée. J'ai besoin d'être fortifié intérieurement. Sans être fortifié, c'est une mort spirituelle. Tu as besoin, ton âme, ton esprit a besoin d'être bâti à l'intérieur de toi. Chacun de nous, l'homme nouveau, doit être fortement, puissamment fortifié dans l'être intérieur. C'est bien, en sorte que nous réalisons non que seulement que Jésus-Christ est vivant en nous, mais de nous affirmer également dans l'amour, et si nous sommes bien édifiés, nous serons inébranlables dans la foi. La preuve, Hébreux 12, 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance, par lequel nous rendons à Dieu un culte qui soit agréable avec respect et avec crainte. Si l'amour de Dieu, elle est bien enracinée, nous allons renverser nos peurs, nos craintes, nos doutes, et nous allons rentrer, je vous le dis, je le redis, dans le repos d'âme. Ça veut dire que si tu as la foi, attends-toi que Dieu va agir miraculeusement dans ta vie. L'attente peut être longue, parfois les réponses ne viennent pas comme ça, mais dans les moments les plus délicats de la vie, garde le respect de ton Sauveur. Ne vous révoltez pas contre le Seigneur. Allô? Je le répète, ne te révolte pas contre Dieu parce que tu passes une épreuve. Beau temps, mauvais temps, reste près du cœur de Dieu. Il n'y a pas de place à la rébellion entre l'Esprit de Dieu et toi. Je le répète, c'est pas bon pour toi, ça. Fais confiance en celui qui va faire la différence. Entre dans l'esprit de la louange et dans l'adoration. Ça va faire que tu vas emporter un culte qui va être adorable, un culte qui va être bon pour Dieu. C'est le respect, de la crainte de Dieu. Et tu t'attends que Dieu va faire la différence. C'est pas dans la rébellion qu'on va gagner la victoire. La véritable foi nous fait rentrer dans la dimension où que rien va vous ébranler. Paul savait que les attaques de l'ennemi viendraient atteindre les chrétiens. Paul a intercédé pour ces gens-là, pour que sa foi soit rendue forte et puissante. Paul priait, il savait que Dieu répondait aux prières. Alléluia! Le prophète Samuel, une autre belle parole, dans les vieux jours avant de mourir, a écrit ceci, 1 Samuel 12, et verset 2, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Bon. Le ministère de l'intercession dans une église a besoin d'être remis à l'honneur. Puis je veux juste dire un mot, parce que c'était très fort pour moi en préparant le message. Peu importe l'église, je ne parle pas juste d'ici, on en fait beaucoup d'autres églises, et tous les pasteurs nous disent la même chose. Hein, Manon? Les réunions de prière du mercredi, pas de monde. Les réunions de prière, pas de monde. C'est général. C'est partout. C'est une faiblesse que le corps vit présentement. Écoutez bien, c'est la réelle force, l'intercession pour une église. Perdre le désir de prier, c'est une descente en chute libre dans votre foi. La flamme va s'éteindre de votre vie. L'enseignement, puis je vais le dire honnêtement ce matin, l'enseignement seul ne remplit pas le mandat que Dieu nous a demandé, qu'il nous accorde. Mais, frères et sœurs, il est temps de tourner les manches, car les besoins sont grands. On aura beau avoir la tête grosse comme ça de la parole de Dieu, mais si le cœur n'est pas à Dieu, ça reste de l'être. On a besoin d'un cœur changé et transformé. Et ça se fait par l'esprit de la prière. Regardons les besoins aux côtés de nous. Pas juste à nous, regarde les besoins. Je viens de parler, les réunions de prière sont désastées. Les gens qui ne prient presque plus, les gens qui ne témoignent presque plus, peu de miracles, peu de délivrance, et beaucoup de gens découragés. Les besoins sont grands. Nous avons besoin de trouver la ferveur de la prière, alléluia, avec une onction fraîche qui descend du ciel, ou que l'Esprit de Dieu va faire son travail, ou moi, je ne suis pas capable de le faire. C'est le temps de le donner, là. C'est l'Esprit de Dieu qui va changer le cœur. Et on a besoin de retrouver cette source, cette soif de Dieu. Alléluia. Anne qui voulait un enfant, qu'elle a prié, elle a intercédé. Son cœur était à Dieu. Elle voulait un bébé. Elle a eu le bébé. Elle a pleuré devant Dieu. Elle était intense avec Dieu. Et même Samuel 1, 16 et 18, il y prit la parole. Il dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Anne a vécu de quoi de gros? Un bébé qui est arrivé, c'était sa vie, elle voulait un bébé. Pour les Juifs, c'est important. Une prière, écoutez bien, une prière qui a changé complètement sa vie. qui a complètement changé sa destination. Une prière qui peut changer la vie d'une église. Une prière qui peut changer notre ville. Une prière qui peut changer notre foyer. Croyez-vous à cela? Oh, tu vois, juste un bon message comme un autre message, là. Mais est-ce qu'on veut voir les choses de Dieu? Elle a enfanté le prophète. La foi ne doit pas douter qu'est-ce que Dieu va faire dans notre vie. Je vous dirais, souvent les gens me demandent comment savoir si la prière est exaucée dans ta vie? C'est simple. Quand la prière est exaucée, Dieu met des dépôts et des convictions dans votre cœur que ça va se réaliser. Tu veux comprendre? C'est simple. Souvent, sur ta prière, je dis, mais non, je suis convaincu que ça va arriver. J'ai une conviction profonde que ça va arriver. Puis effectivement, ça arrivait. Il y a des convictions qui ne nous trompent pas. L'Esprit de Dieu ne nous trompe pas. Donc, rentrons dans cette dimension de foi ce matin. Dieu est le rémunérateur de notre besoin. Ce que je dis en réalité, ta foi doit être active et non passive. Paul a dit aux Colossiens, vous connaissez le texte par cœur, on me dit souvent, si vous êtes ressuscité, 1 Corinthiens, pas Corinthiens, Colossiens 3, 1, 2, si vous êtes ressuscité avec Christ, donc, mais cherche les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses en haut, et non celles qui sont sur la terre. Donc, si tu crois que Christ vit en toi, bien, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Recherche pas les choses du monde, ça va partir de toute façon. Jésus te veut heureux. Et Jésus est heureux quand ta foi est active en lui. Pourquoi? Parce que ça déstabilise son ennemi. Dis avec moi, la foi active déstabilise son ennemi. Allô? Ça ferme la porte du mensonge. La parole de Dieu est au-dessus de tout problème. Jean 14, 1, que votre cœur, qu'est-ce qu'il dit? Que votre cœur ne se trouble point, croyant en Dieu et croyant en moi. Donc, la foi, savez-vous, je compare ça à un avion. Vous savez, quand on prend un avion, on a toute la même chose dans la tête. Rends-nous à destination. Tombe pas en cours de route, arrive à destination. Et puis, quand tu es dans l'avion, puis tu prends de l'air, tu commences à monter, tu dis, ah ouais, pilote, puis tiens, avion, rends-nous à bon port. Puis là, tu n'as pas le contrôle, hein? Tu es assis puis tu es attaché. Tu n'as rien d'autre à faire. Mais toi, dans ta tête, tu dis, continue à monter, toi. La foi, c'est ça. Hein? Tu es assis, tu n'as pas le contrôle. Mais Dieu a le contrôle. Puis la foi doit prendre de l'attitude. Alléluia! Puis si même que de la turbulence, il y a des anges, alléluia, qui viennent pour nous aider. Ayons confiance à notre Dieu. Je vous le dis ce matin, honnêtement, il est le temps, je crois pour nous, en tant que corps de Christ, peu importe qui nous sommes, un chrétien né de nouveau doit s'engager dans le combat de la foi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider. Le psaume 33:20, je vais terminer dans quelques minutes, 33:20 nous dit, « Mon âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. » Le psaume 18:40, « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » Le psaume 68:29, « Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. » Le Saint-Esprit te dit, « Sois puissant. » Il nous donne la force pour faire plier l'ennemi sur nos pieds. Alléluia! Des gens de prière, des gens de foi, comprennent l'importance du combat spirituel. Et même, je vais aller plus loin, je vais terminer avec ce verset, si nous voulons des réponses à la foi, dans Matthieu 9, versets 28 et 29, nous dit, et lisons ensemble, Matthieu, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? « Oui, Seigneur, lui répondit-il. » Alors, il toucha les yeux en disant, « Qu'il soit fait selon votre foi. » Les aveugles veulent recouvrir la vue, et Jésus leur pose une question. « Tu crois-tu que tu peux avoir ta guérison? Tu crois-tu à ta délivrance? Tu crois-tu à ton miracle? Tu crois-tu à ta restauration? » Pourquoi cette question? Jésus voulait avoir le fond du cœur. Et nous, nous devons dire, pour nous, c'est impossible, mais pour toi, tout est possible. Voyez-vous, la foi, comment elle travaille. Si tu crois, la Bible nous dit, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez bien, les miracles, une foi, la foi, elle est active. Tu vas dire comme Jésus, Matthieu 11, 23, « Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi, jette-toi dans la mer, il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La foi active, je termine avec ceci, quand les réponses viennent de Dieu, viennent de la prière, viennent de la foi, la montagne se tasse pour faire place à la majesté. Bon. Voyez-vous, une question de conception, une question de comment vivre la foi chrétienne. Les aveugles ont dit, oui, on veut notre guérison. Il dit, va selon votre foi. Comment va votre foi ce matin? Allô? Bonne question, hein? Jésus l'a posé aux autres. Pourquoi moi, je ne la poserai pas? C'est clair. Donc, Jésus s'inquiétait. Paul s'inquiétait de la foi des gens. La victoire vient dans la foi active. Je termine. Soyez excités de la prière. Soyez excités. On dirait qu'aller prier, on dirait que c'est une mort à soi. Le privilège d'avoir sentir le cœur du Père sur ton cœur, alléluia. Le sentir l'aimer, pleurer dans sa présence, c'est bon. Je vous le dis souvent, c'est bon. Ils disent que les hommes ne pleurent pas. Moi, en tout cas, je pleure. Kleenex vit bien avec moi. Je n'ai pas peur de le dire. S'humilier devant Dieu, ça fait du bien. Reconnaître qu'on est faible, ça fait du bien. De reconnaître que lui seul peut me relever, ça fait du bien. Ça met l'orgueil de côté, puis tu réalises que c'est lui qui rend ta vie. Ce matin, je termine. Quand vous priez, le balancier revient tout le temps. Ce matin, est-ce que tu peux te dire, « Seigneur, je te donne tout » ou tu dis, « Seigneur, ben, je doute de tout. » Allô? Bonne question, hein? « Oh, t'as un bon message, mais... » On a tout un petit mémé, hein? Moi, ce matin, je vis la victoire de Dieu. Je vis la grandeur de Dieu. Notre cœur, comment va-t-il avec le Seigneur? Paul s'est inquiété de la foi des Thessaloniciens. On doit, nous aussi, faire la même chose. S'inquiéter de la foi des frères et sœurs. C'est biblique, qu'est-ce que je dis là. Donc, on va se lever ce matin. Puis, je vais vous poser une simple question. Une simple question pendant que les musiciens vont approcher. Une simple question. Si vous êtes honnête avec vous, pas avec moi, vous avez été honnête avec ça. Combien sont prêts à dire ce matin, ma vie de prière n'est plus qu'est-ce qu'elle était? Soyez honnête. Soyez honnête avec vous, là. C'est plus qu'est-ce que c'était, là. Ma foi ne fonctionne plus comme ça a déjà été. Ça, le feu que j'avais n'est plus le feu qui était là. Combien sont comme ça, là? Je sais, il y en a plusieurs que matin, le Seigneur veut parler dans votre vie, là. Peut-être que c'est le temps de dire, Seigneur, moi, je replace ma vie devant toi ce matin, puis je veux revivre une foi active et de revenir dans la joie de l'Éternel. Je veux retrouver mon zèle. Alléluia! Quand je priais, je voyais mes prières exaucées. Combien ça fait de temps que tu n'as pas vu ta prière exaucée dans mon Seigneur? Combien de temps tu n'as pas pleuré dans mon Seigneur pour avoir une prière exaucée? Prise de position. Dieu nous aime. Dieu s'inquiète de nous, frères et sœurs. Paul le fait pour les églises. Pourquoi moi, je ne le ferais pas? Fait que moi, je vais faire juste un appel un matin, simple. Si ça te parle ce matin, le message, viens chercher la prière. On va prier ensemble. Combien sont d'accord avec ça? Pasteur, prie avec moi. J'ai besoin de prière. J'ai besoin de revenir. Je veux revenir à la source. Alléluia. Pendant qu'on va commencer à chanter, laissez vos places.